voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Lucrèce la Chenardière.
Bonjour, échange épistolaire entre amis, une émission consacrée à la correspondance littéraire. Pour cette deuxième partie de cet échange épistolaire entre Gustave Flaubert et George Sand, je suis accompagnée de Patrick Hamel, qui sera la voix de Gustave Flaubert. Bonjour Patrick.
Bonjour Lucrèce.
Vous savez que les autographes de la correspondance générale de Gustave Flaubert sont ici, intramuros, à la bibliothèque de l'Institut. Nous allons continuer notre parcours. Enfin, le 16 mai 1869, à 5h moins 4 minutes du matin, Gustave Flaubert, comme il le précise dans une lettre à son ami Duplan, écrit le mot « fin » au bas du manuscrit de l'éducation sentimentale. Dès le lendemain, il annonce la grande nouvelle à George Sand. Mais l'euphorie est de courte durée. En effet, Flaubert se plaint du traité, on dirait aujourd'hui du contrat, qui le lie à Michel Lévy, leur éditeur commun. Immédiatement, comme à son habitude, George Sand agit auprès de l'éditeur en faveur de son ami. Paris, 18 mai 1869, mardi soir. J'ai vu aujourd'hui Lévy. Je l'ai tâté d'abord. J'ai vu qu'il ne voudrait à aucun prix céder son traité. Je lui ai dit alors beaucoup de bien du livre et j'ai fait la remarque qu'il l'avait à bien bon marché. Mais, m'a-t-il dit, si le livre a 2 volumes, ce sera 20 000 francs, c'est convenu. Il me semble que tu auras 2 volumes. J'ai pourtant insisté. Il m'a dit, si le livre a du succès, je ne regarderai pas à 2 ou 3 000 francs plus. J'ai dit que tu ne demanderais rien, que ce n'était pas ta manière d'agir, mais que moi, j'insisterai pour toi à ton insu. Et il m'a quitté en me disant, soyez tranquille, je ne dis pas non, que le livre réussisse, j'en ferai profiter l'auteur. Tiendra-t-il parole? J'y reviendrai en temps et en lieu. Laisse-moi faire. Quel jour de l'autre semaine veux-tu venir dîner avec moi chez Mani? Je suis fatiguée. Tu serais bien gentil de venir me lire chez moi. Nous serions seuls et une soirée nous suffira pour ce qui reste. Ton troubadour qui t'aime. La lecture a eu lieu, en effet, car à la date du 24 mai 1869, sur l'agenda de George Sand, on peut lire « Il m'a lu sa fin qui est excellente. Ce soir, je lui lis ma pièce, l'autre, qui l'empoigne et le fait pleurer. »
Paris. Vendredi 11h, 4 juin 69. J'ai déployé depuis 8 jours une activité furibonde. La copie de mon roman est finie et je me suis trouvé un logement. Mais je suis éreinté. Je pars lundi sans faute. Partirai-je seul? Tâchez que non. Je vous embrasse. Croisset. Jeudi 24 juin 1869. Eh bien, cher maître, comment ça va-t-il? Ne devez-vous pas venir à Paris dans le milieu de juillet? Est-ce que vous pousserez une petite pointe jusqu'à Croisset? Je n'aurai pas de grande distraction à vous y offrir. Ma pauvre bonne femme de mère vieillit bien. Quand nous sommes seuls en tête à tête, je vous assure, cher maître, que c'est lamentable. Quant à mon roman, l'éducation sentimentale, je n'y pense plus, Dieu merci. Il est recopié. D'autres mains y ont passé. Donc la chose n'est plus mienne. Elle n'existe plus. Bonsoir. J'ai repris ma vieille toccade de Saint-Antoine. J'ai relu mes notes, je refais un nouveau plan et je dévore les mémoires ecclésiastiques de Lenain de Tillemont. J'espère trouver un lien logique et partant un intérêt dramatique entre les différentes hallucinations du saint. Ce milieu extravagant me plaît et je m'y plonge, voilà. Croisset, 20 juillet 1869, mardi 5h. Je viens d'enterrer mon pauvre Bouillet et en rentrant à Croisset, je trouve vos portraits. Il me semble que vous me les envoyez pour me consoler. Merci, cher maître. Je vais me flanquer une bosse de désespoir, puis je resserai d'aplomb, je l'espère du moins. Mais c'est dur à un vieil ami de 37 ans qui s'en va. Et c'est moi qui ai conduit le deuil, détails grotesques et atroces, etc., etc. Je n'en puis plus, et vous embrasse.
Nohant, 6 août 1869. Eh bien, cher bon ami, nous voici en août et tu as promis de venir. On ne l'oublie pas, on y compte, on en rêve. Tu devais faire une excursion au bord de la mer, si je ne me trompe. Tu dois avoir besoin de secouer ton chagrin.
Croisset, vendredi 6 août. Cher maître, je pars demain pour Paris. Écrivez-moi donc boulevard du Temple 42. La mort de mon pauvre Bouillet, qui a bouleversé ma vie, dérange mes vacances. Quand irai-je à Nohant ? Pas avant cet hiver, probablement. Je vais être surchargé de besogne.
Nohant, 15 novembre 1869. Qu'est-ce que tu deviens, mon vieux troubadour chéri ? Tu corriges tes épreuves comme un forçat jusqu'à la dernière minute ? On annonce ton livre pour demain, depuis 2 jours. On va te louer et t'abîmer, tu t'y attends. Tu as trop de vraies supériorités pour n'avoir pas des envieux et tu t'en bats l'œil, pas vrai ? Tu es de force à être stimulé par ce qui abat les autres. Il y aura du pétard, certainement. Les bons progressistes, les vrais démocrates t'approuveront. Les idiots seront furieux et tu diras « Vogue la galère ». Moi, je corrige aussi les épreuves de Pierre qui roule et je suis à la moitié d'un roman nouveau qui ne fera pas grand bruit. Je fais alternativement mon roman, celui qui me plaît, et celui qui ne déplaît pas à la revue et qui me plaît fort peu. Peut-être ceux que je préfère sont-ils les plus mauvais, mais j'ai cessé de prendre souci de moi si tant est que j'en ai jamais eu. Le cœur est toujours pris au détriment de la tête. À présent, c'est les enfants qui mangent tout mon intellect. Aurore est un bijou, une nature devant laquelle je suis en admiration. Tu as promis de venir dès que tu serais libre, à Noël, au plus tard, faire réveillon avec nous. Sur ce, je t'embrasse à plein cœur, comme je t'aime.
Paris, mardi midi, 16 novembre 1869. Cher maître, mon bouquin paraît, je crois, demain. Vous aurez le premier exemplaire, parbleu. La politique va-t-elle me faire du tort ? J'en ai peur, à moins qu'elle ne me fasse du bien. Je ne vois pas pourquoi je n'irai pas vers Noël à Nohant. D'ici là, amitié au vôtre et à vous, cher maître. Mille tendresses de votre vieux. Paris, 7 décembre, 4 rue Murillo, Parc Monceau, mardi 4h. Cher maître, votre vieux troubadour est trépigné d'une façon inouïe. Les gens qui ont reçu de moi un exemplaire de mon roman craignent de m'en parler, par peur de se compromettre ou par pitié pour moi. Les plus indulgents trouvent que je n'ai fait que des tableaux et que la composition, le dessin manque absolument. Saint-Victor qui prône les livres d'Arsène Houssay ne veut pas faire d'article sur le mien, le trouvant trop mauvais. Voilà. Théo ?
Théophile Gautier ?
Est absent et personne, absolument personne ne prend ma défense. Donc, vous devinez le reste. Si vous voulez vous charger de ce rôle-là, vous m'obligerez. Voilà. Si ça vous embête, n'en faites rien. Pas de complaisance entre nous. Sarcé a republié un second article contre moi. Barbé d'Aurevilly prétend que je salis le ruisseau en m'y lavant. Sic. Comme venez-vous à Paris ? Je vous embrasse.
Nohant, 2h du matin, 10 décembre 1869. Mon camarade, c'est fait. L'article partira demain à qui ? Je ne suis pas bien contente de ma prose. J'ai la fièvre et une espèce d'entorse depuis 2 jours, mais il faut se hâter. Je t'embrasse.
Paris. Vendredi, 10h du soir, 10 décembre. Cher maître, bon comme du bon pain. À Girardin, la liberté insérera votre article tout de suite. Je continue à être roulé dans la fange. Comment vous remercier ? J'éprouve le besoin de vous dire des tendresses. Quelle bonne femme vous faites, et quel brave homme. Votre vieux troubadour. Paris, jeudi matin, 24 février 1870. Cher bon maître, il me sera impossible d'aller demain à votre première. Je vais me décider à mettre mon pauvre larbin dans une maison de santé, car dans peu de temps, si je continuais, c'est moi qu'il faudrait y mettre. Je ne peux plus monter les escaliers, mais dès que je serai seul et tranquille, j'irai bien. Mon petit Duplan est toujours extrêmement malade. Et vous, la grippe, est-elle tout à fait passée ? Comme j'ai envie de vous voir. Bonne chance pour demain. Je vous embrasse très fort.
Quelle soirée, mes enfants ! Quel succès ! Quel bon public ! Salle grippée, retenant sa toux et sa respiration pour écouter, appréciant tout, applaudissant de lui-même, de toutes les places. Les claqueurs ont pu ménager et reposer leurs pattes. En effet, la première de l'autre, à l'Odéon, le 25 février 1870, est un triomphe.
Paris, 1er mars 70. Cher maître, c'est fini. Mon pauvre Duplan est mort ce matin à midi. On l'enterre après-demain. Donc ne comptez pas sur moi jeudi. Ah, votre pauvre troubadour n'est pas gai.
Paris, 2 mars 1870, mercredi soir. Pauvre cher ami, tes malheurs me navrent. C'est trop, coup sur coup. Et je pars samedi matin te laissant dans toutes ces douleurs. Veux-tu venir à Nohant avec moi, changer d'air ? ne fût-ce que 2 ou 3 jours. J'ai un coupé, nous serions seuls et ma voiture m'attend à Châteauroux. Tu serais triste chez nous, à ton aise. Changement de logement, de figure, d'habitude, cela fait quelquefois un bien physique. On n'oublie pas son chagrin, on force son corps à le supporter.
Paris, jeudi 6h du soir, 3 mars 1870. Non, cher bon maître, ce qu'il me faut maintenant, ce n'est pas la campagne, mais le travail. Quand ma grippe qui m'a repris sera passée, je me précipiterai à la bibliothèque de l'Institut où j'aurai affaire tous les jours pendant 6 semaines au moins. J'ai fait ce matin, au milieu de la souffrance intense qui m'étouffait, une foule de réflexions amèrement grotesques. Et personne à qui parler, personne qui sente comme vous. Au milieu de la semaine, je demanderai à l'Odéon 2 places pour aller voir l'autre. Embrassez bien fort Aurore pour moi. Mille tendresses de votre pauvre vieux troubadour, peu facétieux pour le moment. Paris, mardi soir, 15 mars 1870. Cher maître, je suis toujours bien éreinté et très faible encore plus d'esprit que de corps. J'entre dans la période hargneuse et misanthropique. Je sens que la vieillesse me prend. Pendant 10 jours, je me suis livré franchement, pleinement, à une tristesse noire. J'avais fermé ma porte et je n'ai vu personne. Puis je me suis remis à travailler, à lire des choses rébarbatives telles que les Énéades de Plotin. Je vais tous les jours à la bibliothèque impériale ou à celle de l'Institut. Je dîne seul chez moi, je me couche à 11h et je dors jusqu'à 9h du matin. Voilà. Je n'ai pas encore vu l'autre. Je me donnerai ce plaisir-là à la fin de cette semaine ou au commencement de la semaine prochaine. Mon visage se rétablit, je prends de l'huile de foie de morue pour me tonifier un peu. Et quand se verra-t-on ? Amitié à tous les vôtres et à vous, cher bon maître. Mille tendresses. Croisset, mardi 11 octobre 1870. Cher maître, vivez-vous encore ? Où êtes-vous, vous, Maurice et les autres ? Je ne sais pas comment je ne suis pas mort tant je souffre atrocement depuis 6 semaines. Je vous assure que j'ai voulu faire le bien. Mais impossible, quelle misère ! J'ai eu aujourd'hui à ma porte 271 pauvres. Et on leur donne à tous. Que sera-ce cet hiver ? Les Prussiens sont maintenant à 12 lieues de Rouen, et nous n'avons pas d'ordre, pas de commandement, pas de discipline. Rien, rien ! On nous berne toujours avec l'armée de la Loire, mais où est-elle ? En savez-vous quelque chose ? Que fait-on dans le centre de la France ? Paris finira par être affamé, on ne lui porte aucun secours. Les bêtises de la République dépassent celles de l'Empire. Se joue-t-il en dessous quelque abominable comédie ? Pourquoi tant d'inaction ? Ah, comme je suis triste ! Je sens que le monde latin agonise. Tout ce qui fut nous s'en va. J'ai pour distraction les patrouilles et les exercices de la garde nationale. Adieu, cher bon maître. J'ai pas le cœur de vous en écrire plus long. Envoyez-moi un de vos nouvelles, ce sera une charité. Je vous embrasse.
14 octobre 1870. Nous sommes vivants, à La Châtre. Nohant est ravagé par une variole compliquée, affreuse. Nous avons dû emmener nos petites dans la Creuse chez des amis. Nous t'aimons toujours et tous nous t'embrassons. Nohant, 14 juin 1871. Tu as envie et besoin de me voir et tu ne viens pas. Ce n'est pas bien, car moi aussi, et nous tous ici, nous soupirons après toi. Nous nous sommes quittés si gais, il y a 18 mois, et tant de choses atroces ont passé entre nous. Se revoir quand on y a survécu serait la consolation due. Moi, je ne peux pas bouger, je n'ai pas le sou, et il faut que je travaille comme un nègre. Et puis, je n'ai pas vu un seul Prussien, et je voudrais garder mes yeux vierges de cette souillure. Ah, mon ami, quelles années nous passons là ! Quel sera le contre-coup de cette infâme commune ? Je ne vois plus que ténèbres. Je jugeais les autres par moi-même, j'avais gagné beaucoup sur mon propre caractère, j'avais semé sur mes volcans de l'herbe et des fleurs qui venaient bien, et je me figurais que tout le monde peut s'éclairer, se corriger ou se contenir. Et voilà que je m'éveille d'un rêve pour trouver une génération partagée entre le crétinisme et le délirium très mince. Je t'aime, voilà ce que je sais. Mes enfants t'en disent autant. Embrasse pour moi ta bonne petite mère. Non, 23 juillet. Non, je ne suis pas malade, mon chéri vieux troubadour, en dépit du chagrin qui est le pain quotidien de la France. Je te remercie d'avoir été ému de la maladie dont les journaux m'ont gratifié. Maurice t'en remercie aussi et t'embrasse. Il entremêle toujours ses études scientifiques, littéraires et agricoles et de belles apparitions de marionnettes. Où en sommes-nous, selon toi ? À Rouen, vous n'avez plus de Prussiens sur le dos, c'est quelque chose ? Et on dirait que la République bourgeoise veut s'asseoir. Elle sera bête, tu l'as prédit, et je n'en doute pas. Mais après le règne des épiciers, il faudra bien que la vie s'étende et reparte de tous côtés. Les ordures de la commune nous montrent des dangers qui n'étaient pas assez prévus et qui commandent une vie politique nouvelle à tout le monde. Faire ses affaires soi-même et forcer le joli prolétaire créé par l'Empire à savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. L'éducation n'apprend pas l'honnêteté et le désintéressement du jour au lendemain.
Croisset, 8 septembre 1871. Pourquoi êtes-vous si triste? L'humanité n'offre rien de nouveau. Son irrémédiable misère m'a empli d'amertume dès ma jeunesse. Je crois que la foule, le nombre, le troupeau sera toujours haïssable. Il n'y a d'important qu'un petit groupe d'esprits, toujours les mêmes, et qui se repassent le flambeau. Tant qu'on ne s'inclinera pas devant les mandarins, tant que l'Académie des sciences ne sera pas le remplaçant du pape, la politique tout entière et la société jusque dans ses racines ne sera qu'un ramassis de blagues écœurantes. L'idée d'égalité, qui est toute la démocratie moderne, est une idée essentiellement chrétienne et qui s'oppose à celle de justice. Le premier remède serait d'en finir avec le suffrage universel, la honte de l'esprit humain. Tel qu'il est constitué, un seul élément prévaut au détriment de tous les autres. Le nombre domine l'esprit, l'instruction, la race et même l'argent, qui vaut mieux que le nombre. Ah, cher bon maître, si vous pouviez haïr. C'est là ce qui vous a manqué, la haine. Malgré vos grands yeux de sphinx, vous avez vu le monde à travers une couleur d'or. Mais tant de ténèbres ont surgi que vous voilà maintenant ne reconnaissant plus les choses. Allez donc, criez, tonnez, prenez votre grande lyre et pincez la corde des reins. Des monstres s'enfuiront. Arrosez-nous avec les gouttes de sang de Thémis blessé. Dites-moi que vous relevez la tête et pensez quelquefois à votre vieux troubadour qui vous chérit.
Nohant, 16 septembre 1871. Cher vieux, je te répondais avant-hier et ma lettre a pris de telles proportions que je l'ai envoyée comme feuilleton au temps pour la prochaine quinzaine, car j'ai promis de leur donner 2 feuilletons par mois. Cette lettre à un ami ne te désigne pas, même par une initiale, car je ne veux pas plaider contre toi en public. Je te dis mes raisons de souffrir et de vouloir encore. Tu y verras que mon chagrin fait partie de moi et qu'il ne dépend pas de moi de croire que le progrès est un rêve. Laisse-moi souffrir, va. Ça vaut mieux que de voir l'injustice avec un visage serein, comme dit Shakespeare. Quand j'aurai épuisé ma coupe d'amertume, je me relèverai.
Paris, 12 octobre 1871. Tout homme, si infime qu'il soit, a droit à une voix, la sienne. Mais n'est pas l'égal de son voisin, lequel peut le valoir 100 fois. Dans une entreprise industrielle, chaque actionnaire vote en raison de son apport. Il en devrait être ainsi dans le gouvernement d'une nation. Je vaux bien 20 électeurs de Croisset. L'argent, l'esprit et la race même doivent être comptés, bref, toutes les forces. Ah, cher maître, vous qui avez tant d'autorité, vous devriez bien attacher le gros lot. On lit beaucoup vos articles du temps qui ont un grand succès. Et qui sait, vous rendriez peut-être à la France un immense service.
Non, 25 octobre 1871. Mes racines. On n'extirpe pas cela en soi et je m'étonne que tu m'invites à en faire sortir des tulipes quand elles ne peuvent te répondre que par des pommes de terre. Dès les premiers jours de mon éclosion intellectuelle, qu'en m'instruisant toute seule auprès du lit de ma grand-mère paralytique ou à travers champs, je me posais sur la société les questions élémentaires. Je n'étais pas plus avancée à 17 ans qu'un enfant de 6 ans. Alors je lisais Chateaubriand et Rousseau, je passais de l'Évangile au contrat social, je lisais l'histoire de la Révolution faite par des dévots, l'histoire de France faite par des philosophes. Et un beau jour, j'accordais tout cela comme une lumière faite de 2 lampes et j'ai eu des principes, ne ris pas, des principes d'enfant très candides qui me sont restés à travers tout, à travers l'Elia et l'époque romantique, à travers l'amour et le doute, les enthousiasmes et les désenchantements. J'ai traversé des révolutions et j'ai vu de près les principaux acteurs. J'ai vu le fond de leur âme. Je devrais dire tout bonnement le fond de leur sac. Pas de principe, aussi pas de véritable intelligence, pas de force, pas de durée. Rien que des moyens et un but personnel. Un seul avait des principes, pas tous bons, mais devant la sincérité desquels il comptait pour rien sa personnalité. Barbès. Chez les artistes et les lettrés, je n'ai trouvé aucun fond. Je ne sais si tu étais chez Magny un jour où je leur ai dit qu'ils étaient tous des messieurs. Ils disaient qu'il ne fallait pas écrire pour les ignorants. Ils me conspuaient parce que je ne voulais écrire que pour cela. vu qu'eux seuls ont besoin de quelque chose. Les maîtres sont pourvus, riches et satisfaits. Les imbéciles manquent de tout, je les plains. Aimer et plaindre ne se séparent pas, et voilà le mécanisme peu compliqué de ma pensée.
Croisset, 14 novembre 1871. Ouf, je viens de finir mes dieux, c'est-à-dire la partie mythologique de mon Saint-Antoine, sur laquelle je suis depuis le commencement de juin. Comme j'ai envie de vous lire ça, cher maître du bon Dieu. Votre vieux troubadour a la tête cuite, mes longues nuits depuis 3 mois n'ont pas été au-delà de 5 heures. J'ai pioché d'une manière frénétique. Aussi, je crois avoir amené mon bouquin à un joli degré d'insanité. L'idée des bêtises qu'il fera dire aux bourgeois me soutient. Nous ne souffrons que d'une chose, la bêtise. Mais elle est formidable et universelle. Vous n'êtes pas comme moi, vous. Vous êtes pleine de mansuétude. Moi, il y a des jours où la colère m'étouffe. Je voudrais noyer mes contemporains dans les latrines. Votre vieux.
Non, 8 décembre 1872. Je suis arrivée, moi, à un état philosophique d'une sérénité très satisfaisante. Toutes les misères ou toute l'indifférence qu'on peut me témoigner ne me touchent réellement plus. Je n'ai pas monté aussi haut que toi dans mon ambition. Tu veux écrire pour tous les temps. Moi, je crois que dans 50 ans, je serai parfaitement oubliée et peut-être durement méconnue. Je ne me suis jamais crue de premier ordre. Mon idée a été plutôt d'agir sur mes contemporains, ne fût-ce que sur quelques-uns, et de faire partager mon idéal de douceur et de poésie. J'ai atteint ce but jusqu'à un certain point. De l'argent, j'en ai gagné, de quoi me faire riche. Si je ne le suis pas, c'est que je n'ai pas tenu à l'être. J'ai assez de ce que Lévy fait pour moi. Lévy qui vaut mieux que tu ne dis. Ce que j'aimerais, ce serait de me livrer absolument à la botanique. Ce serait pour moi le paradis sur la terre. Mais il ne faut pas. Cela ne servirait qu'à moi. Et si le chagrin est bon à quelque chose, c'est à nous défendre de l'égoïsme. Tu promets de venir ? C'est joie et fête pour mon cœur et dans la famille. Ton vieux troubadour. Non, 15 novembre 1875. Je sais qu'on répète Victorine aux Français, mais j'ignore si j'irai voir cette reprise. Je suis bien détraquée depuis que j'ai passé ma septantaine et je ne sais pas encore si je prendrai le dessus. Je ne peux plus marcher, moi qui aimais tant me servir de mes pattes sans risquer d'atroces douleurs. Enfin, c'est pour te dire que j'irai t'embrasser si la chose n'est pas absolument impossible. Tu me liras ce que tu as commencé.
Paris, 240 rue du Faubourg Saint-Honoré, jeudi 16 décembre 1875. Ça va un peu mieux, et j'en profite pour vous écrire, cher bon maître, adorable. Premièrement, les affaires, les exécrables affaires, ne prennent pas une mauvaise tournure. Le liquidateur de Commanville va arrêter la liquidation et proposer un arrangement à ses créanciers. L'intention de mon neveu est de former une société par action. Toute la difficulté consiste à avoir un président. Le reste viendrait de soi-même. Il suffit de connaître quelqu'un dans la haute finance. Mais nous ne connaissons personne dans ce monde-là. Et vous ? Ma pauvre nièce, qui avait été la plus vaillante de nous trois, est maintenant comme saignée à blanc. Son état anémique m'inquiète. Je secoue tant que je peux les idées noires et je travaille quand même. Vous savez que j'ai quitté mon grand roman pour écrire une petite bêtise moyenâgeuse qui n'aura pas plus de 30 pages. Oui, cela me met dans un milieu plus propre que le monde moderne et m'a fait du bien. Bon, extérieurement, mon existence n'est guère changée. Je reçois les mêmes visites, mes fidèles du dimanche sont d'abord le grand Tourguenieff, qui est plus gentil que jamais, Zola, Daudet et Goncourt. Vous ne m'avez jamais parlé des deux premiers. Que pensez-vous de leurs livres ? Je ne lis rien du tout, sauf Shakespeare, que j'ai repris d'un bout à l'autre. Comme je sors très peu, je n'ai pas encore vu le père Hugo. Ce soir pourtant, je vais me résigner à passer des bottes pour aller lui présenter mes hommages. Sa personne me plaît infiniment, mais ça court, miséricorde. Quand nous verrons-nous ? Moi, je ne peux pas aller à Nohant, mais vous, avez-vous donc abandonné Paris pour toujours ? Amitié à tous les vôtres. Embrassez bien pour moi vos chères petites, et à vous, votre vieux troubadour qui vous aime.
Nohant, 18 et 19 décembre 1875. Qu'est-ce que tu appelles quelqu'un dans la haute finance ? Je n'en sais rien, moi. Je suis liée avec Victor Bory. Il me rendra service, il y voit son intérêt, faut-il lui écrire ? Tu vas donc te remettre à la pioche, moi aussi. J'ai été si malade tout l'été, mais mon bizarre et excellent ami Favre m'a guéri merveilleusement et je renouvelle mon bail. Que ferons-nous ? Toi, à coup sûr, tu vas faire de la désolation et moi de la consolation. Je sais que tu blâmes l'intervention de la doctrine personnelle dans la littérature. As-tu raison ? Il me semble que ton école ne se préoccupe pas du fond des choses et qu'elle s'arrête trop à la surface. À force de chercher la forme, elle fait trop bon marché du fond. Elle s'adresse aux lettrés, mais il n'y a pas de lettrés proprement dit. On est homme avant tout. On veut trouver l'homme au fond de toute histoire et de tout fait. Ça a été le défaut de l'éducation sentimentale à laquelle j'ai tant réfléchi depuis, me demandant pourquoi tant d'humeur contre cet ouvrage si bien fait et si solide. Ce défaut, c'était l'absence d'action des personnages sur eux-mêmes. Ils subissaient le fait et n'en s'en emparaient jamais. Eh bien, je crois que le principal intérêt d'une histoire, c'est ce que tu n'as pas voulu faire. À ta place, j'essaierai le contraire. Tu te renourris pour le moment de Shakespeare, eh bien tu fais. C'est celui-là qui met des hommes aux prises avec les faits. Remarque que par eux, soit en bien, soit en mal, le fait est toujours vaincu. Mes chères petites vont bien. Aurore est un brin de fille superbe, une belle âme droite dans un corps solide. L'autre est la grâce et la gentillesse. Je suis toujours un précepteur assidu et patient, et il me reste peu de temps pour écrire de mon état, vu que je ne peux plus veiller après minuit et que je veux passer toute ma soirée en famille. Mais ce manque de temps me stimule et me fait trouver un vrai plaisir à piocher. C'est comme un fruit défendu que je savoure en cachette. Tout, mon cher monde, t'embrasse. Ton vieux troubadour qui t'aime. T'ai-je envoyé Foulamarande et les photographies de mes fillettes ? Embrasse pour moi ta chère nièce. Quelle bonne et jolie lettre elle m'a écrite. Dis-lui que je la supplie de se soigner et de vouloir guérir. Comment ? Littré et sénateur ? C'est à n'y pas croire quand on sait ce que c'est que la chambre. Il faut tout de même la féliciter pour cet essai de respect d'elle-même.
Paris, 31 décembre 1875. Cher maître, votre bonne lettre du 18, si tendrement maternelle, m'a fait beaucoup réfléchir. Que voulez-vous que je fasse préciser vos enseignements ? Je ne fais pas de la désolation à plaisir, croyez-le bien, quant à mes manques de convictions. Hélas, les convictions m'étouffent. J'éclate de colère et d'indignation rentrée. Mais dans l'idéal que j'ai de l'art, je crois qu'on ne doit rien montrer des siennes et que l'artiste ne doit pas plus apparaître dans son œuvre que Dieu dans la nature. L'homme n'est rien, l'œuvre tout. Cette discipline qui peut partir d'un point de vue faux n'est pas facile à observer, et pour moi, du moins, c'est une sorte de sacrifice permanent que je fais au bon goût. Il me serait bien agréable de dire ce que je pense et de soulager le sieur Gustave Flaubert par des phrases. Mais quelle est l'importance du dit sieur ? Je pense comme vous, mon maître, que l'art n'est pas seulement de la critique et de la satire. Je me suis toujours efforcé d'aller dans l'âme des choses et de m'arrêter aux généralités les plus grandes, et je me suis détourné exprès de l'accidentel et du dramatique. Pas de monstre et pas de héros. Vous me dites, je n'ai pas de conseils littéraires à te donner, je n'ai pas de jugement à formuler sur les écrivains, tes amis, etc., etc. Par exemple, mais je réclame des conseils et j'attends vos jugements. À propos de mes amis, vous ajoutez « mon école ». Mais je m'abîme le tempérament attaché de n'avoir pas d'école. Ce que je vois souvent recherche tout ce que je méprise et s'inquiète médiocrement de ce qui me tourmente. Goncourt, par exemple, est très heureux quand il a saisi dans la rue un mot qu'il peut coller dans un livre. Et moi, très satisfait quand j'écris une page sans assonance ni répétition. Je donnerais toutes les légendes de Gavarni pour certaines expressions et coupes des maîtres comme « l'ombre était nuptiale, auguste et solennelle » du père Hugo, ou ceci de Montesquieu. Les vices d'Alexandre étaient extrêmes comme ses vertus. Il était terrible dans sa colère et le rendait cruel. Il me manque une vue bien arrêtée et bien étendue sur la vie. Vous avez mille fois raison. Mais le moyen qu'il en soit autrement. Je ne vois pas le moyen d'établir aujourd'hui un principe nouveau, pas plus que de respecter les anciens. Je possède les deux photographies de vos chères petites, mais je n'ai pas Flammarande. Allons, que 1876 vous soit léger à tous. Je vous embrasse tendrement, cher bon maître adorable.
Nohant, 25 mars 1876. J'aurais beaucoup à dire sur les romans de M. Zola, et il vaudra mieux que je le dise dans un feuilleton que dans une lettre. En somme, la chose dont je ne me dédirai pas, tout en faisant la critique philosophique du procédé, c'est que Rougon est un livre de grande valeur et digne d'être placé au premier rang. Cela ne change rien à ma manière de voir que l'art doit être la recherche de la vérité et que la vérité n'est pas la peinture du mal. Elle doit être la peinture du mal et du bien. La vie n'est pas bourrée que de monstres, la société n'est pas formée que de scélérats et de misérables. Les imbéciles dominent, c'est vrai, mais il y a une conscience publique qui pèse sur eux et qui les oblige à respecter le droit. Que l'on montre et flagelle les coquins, c'est bien, c'est moral même, mais que l'on nous dise et nous montre la contrepartie, autrement le lecteur naïf, qui est le lecteur en général, se rebute, s'attriste, s'épouvante et vous nie pour ne pas se désespérer. Comment vas-tu, toi ? Tourguenev m'a écrit que ton dernier travail était très remarquable. Tu n'es donc pas fichu comme tu le prétends. Ta nièce va toujours mieux, n'est-ce pas ? Moi, je vais mieux aussi, après des crampes d'estomac à en devenir bleu, et cela avec une persistance atroce. C'est une bonne leçon, la souffrance physique, quand elle vous laisse la liberté d'esprit. On apprend à la supporter et à la vaincre. On a bien quelques moments de découragement où l'on se jette sur son lit. Mais moi, je pense toujours à ce que me disait mon vieux curé quand il avait la goutte. Ça passera, ou je passerai. Mon Aurore commence l'histoire et n'est pas très contente de ces tueurs d'hommes qu'on appelle des héros ou des demi-dieux. Elle les traite de vilains cocos. Nous avons un sacré printemps. La terre est jonchée de fleurs et de neige. On prend l'onglet à cueillir les violettes et les anémones. Je t'embrasse et je t'aime. Fais donc vite paraître ta légende que nous la lisions. Ton vieux troubadour. Le 29 mai 1876, George Sand s'alite à la merci d'atroces douleurs qu'elle supportera pendant une dizaine de jours. Flaubert règle ses affaires grâce, une fois encore, à l'aide de George Sand, qui, n'ayant pas la force d'écrire, a demandé à Lina, sa belle-fille, de s'en charger. La lettre que nous allons entendre est la dernière que George Sand a reçue de son vieux troubadour.
Paris, lundi soir, 29 mai 1876. Cher maître, grâce à l'aimable billet de Madame Lina, je me suis transporté hier chez Victor Bory qui m'a parfaitement reçu. Mon neveu a été aujourd'hui lui porter ses documents. Bory lui a promis de s'occuper de son affaire. Le fera-t-il ? Je crois qu'il est à même de me rendre indirectement le plus grand service qu'on puisse me rendre. Si mon pauvre neveu trouvait le capital dont il a besoin pour travailler, je pourrais rattraper une partie de ce que j'ai perdu et vivre en paix jusqu'à la fin de mes jours. Je me suis présenté chez Bory de votre part, et c'est à vous que je dois la cordialité de sa réception. Je ne vous en remercie pas, bien entendu, mais vous pouvez lui dire que j'étais touché de son accueil et stimulé son zèle si vous voyez que c'est utile. J'ai beaucoup travaillé dans ces derniers temps, comme je voudrais vous voir pour vous lire ma petite bêtise moyenâgeuse. J'ai commencé un autre conte intitulé « Histoire d'un cœur simple », mais j'ai interrompu ce travail pour faire des recherches sur l'époque de Saint-Jean-Baptiste, car je veux écrire le festin d'Hérodiade. Le bon Tourguenieff part ce soir pour Saint-Pétersbourg. Il me demande si je vous ai remercié de votre dernier livre. Serais-je coupable de cet oubli ? Vous verrez par mon histoire d'un cœur simple où vous reconnaîtrez votre influence immédiate et que je ne suis pas si entêté que vous le croyez. Je crois que la tendance morale, ou plutôt le dessous humain de cette petite œuvre, vous sera agréable. Adieu, cher bon maître. Amitié au vôtre. Je vous embrasse bien tendrement. Votre vieux.
Ce mot « adieu » que Flaubert utilise pour la première fois, était-il prémonitoire ? Le fait que George Sand ait demandé à Lina, sa belle-fille, d'écrire à sa place, n'aurait-il pas dû alerter Flaubert sur l'état de santé de son cher maître ? George Sand ne lira pas un cœur simple. Elle meurt le 8 juin, après une dizaine de jours de souffrance. Nous nous souvenons que la première lettre de Flaubert à George Sand ne nous est pas parvenue. Mais cette dernière, en revanche, nous l'avons et pourtant. Il nous semble à la fin qu'une lettre manque. Nous aurions aimé un courrier qui aurait été moins plein des préoccupations personnelles de Flaubert, une lettre aimante et bonne n'aurait-elle pas été la bienvenue à nos... Mais n'oublions pas qu'il s'agit ici de la vie et non pas d'un roman. Seconde partie d'échanges épistolaires entre amis avec Patrick Hamel pour la voix de Flaubert, Lucien Pénaud au son, une émission de Lucrèce Lachenardière. Vous pouvez retrouver la première partie dans la médiathèque de Canal Académie.